Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur l'émission Dialogue, présentée par Christine Bessy, Paul Roussier et Isabelle Raviolo. Aujourd'hui, avec Christine Bessy, nous allons vous présenter l'œuvre philosophique d'Emmanuel Falk, Hors phénomène et la chair de Dieu.
Bonjour Isabelle, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Oui, c'est une grande joie de vous présenter une émission en deux épisodes printaniers pour des émissions qui ont été préparées par Isabelle cet hiver, plantées pendant l'hiver, donc au mois de décembre, puisque Isabelle a interviewé Emmanuel Falk pour son dernier livre et l'ensemble de son œuvre. Et nous avons médité pendant vraiment tout l'hiver sur cette longue interview pour finalement décider de constituer une émission en deux épisodes hein, dont Isabelle va vous présenter exactement les thèmes. Et cette émission, chers auditeurs, chères auditrices, elle nous tient véritablement à cœur puisque elle s'inscrit aussi dans un temps qui est le temps de la guerre à l'Est. Et c'est pourquoi nous serons heureuses de vous proposer peut-être un échange ou en tout cas un dialogue avec le travail d'un autre phénoménologue, Bruce Bégout, qui est philosophe, directeur du département de philosophie de l'université Bordeaux 3 Montaigne. Et donc, nous vous lirons un extrait de son dernier livre, extrait des Mémoires des Annales de Phénoménologie, Notre douloureux présent, la phénoménologie face au temps moderne. Un livre qui a été publié dans la collection dirigée par Alexander Schnell en avril 2023. Pardon. Voilà, chers auditeurs, nous vous souhaitons une très belle découverte de la vitalité des études phénoménologiques en France, hein, grâce à Isabelle qui nous présente Monsieur Falk.
Alors, Monsieur Falk, c'est un philosophe d'abord, un spécialiste de philosophie médiévale. Il enseigne actuellement à l'Institut catholique de Paris. C'est un philosophe qui a une grande œuvre à son acquis, plusieurs livres, et notamment un triduum philosophique sur lequel je vais revenir. Alors Emmanuel Falk, dans son parcours de philosophe, a toujours essayé de comprendre le rapport complexe entre philosophie et théologie, ce rapport qui est déjà celui hein, que met en lumière saint Thomas d'Aquin dans son œuvre et qui, plusieurs siècles après le docteur Angélique, se poursuit sous la plume du phénoménologue Emmanuel Falk à travers ce qu'il appelle un combat amoureux. Un combat amoureux qui est donc plus qu'un polémos, mais qui est un combat de l'ordre d'une proximité, d'une amitié, ce qu'Emmanuel Falk appelle, avec un mot tout à fait original, le tuilage, dans ce livre, le combat amoureux, qu'il va poursuivre aussi dans ses réflexions avec Passer le Rubicon. Cette difficile gémellité, pourrait-on dire, où ce passage de la frontière va devenir une question, un étonnement, mais aussi dans cette trajectoire d'Emmanuel Falk, un rapport fécond. Pourquoi un rapport fécond ? Parce que là où philosophie et théologie, raison et foi, où pourrait-on dire la lumière naturelle des philosophes et la lumière surnaturelle de la révélation se rencontrent, il y va presque d'une réflexion d'ordre phénoménologique dès lors que ces deux disciplines, dans ce rapport de sororité, nous rappellent l'essentiel de notre existence incarnée, une existence qui s'inscrit dans le monde, une existence qui est au monde, pour reprendre des termes de Merleau-Ponty, et qui, dans ce parcours de l'être au monde, interroge une présence corps et âme. Et c'est justement dans ce retour aux choses mêmes auquel Emmanuel Falk nous exhorte qu'il s'agit de rappeler aussi bien l'apport des théologiens, des pères de l'Église notamment, mais aussi l'apport des philosophes présocratiques jusqu'à Nietzsche, sur lequel Emmanuel Falk revient beaucoup dans La chair de Dieu. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors c'est vrai qu'avec son livre « Hors phénomène », Emmanuel Falk propose un tournant dans la tradition philosophique contemporaine parce que, justement, si les phénoménologues avant lui, et je pense à son maître, Jean-Luc Marion notamment, mais aussi à Jean-Yves Lacoste ou encore à Jean-Louis Chrétien, ont interrogé le phénomène, Emmanuel Falk...
Est-ce qu'on pourrait rappeler peut-être rapidement la définition d'un phénomène, s'il te plaît, Isabelle ? Parce que la phénoménologie est tout de même... tout de même
difficile à appréhender d'accès. Peut-être pour un lecteur ou un auditeur, pardon, aujourd'hui. Là, comme ça, brûle pour point, tu as raison, Christine. Bien, je reprendrai le paragraphe 7 de Heidegger dans Être et Temps, justement, le phénomène. Qu'est-ce que ce phénomène, sinon l'apparaître de la chose, on va dire, c'est-à-dire ce qui est là, donné à la lumière du monde, hein, cela vient du grec, ce mot, on retrouve le mot phos, la lumière, ce qui vient à la lumière, ce qui se manifeste, ce qui est là donné et qui marque véritablement en philosophie occidentale une rupture avec l'idéalisme cartésien. Et ça, Emmanuel Falk y revient beaucoup dans son œuvre. Et justement, si cela marque une rupture, c'est parce que ce retour aux choses mêmes dont parlait Husserl déjà dans les méditations cartésiennes, eh bien, c'est peut-être une manière de se repositionner dans le monde, nous, en tant qu'êtres humains. Donc, de repenser notre finitude. Et par ce biais, on voit que la phénoménologie est cette étude du phénomène qui vient à nous, et non plus nous qui venons à lui. On n'est plus dans un rapport de surplomb, comme Descartes du haut de son balcon, à travers la méditation métaphysique 2, hein, où il est là, il regarde les chapeaux et les manteaux qui passent, et puis il se dit « qui me dira que ce sont des hommes, sinon moi, qui dit que ce sont des hommes ?» au fond. Il en va de même pour la cire, hein, qui précède ce moment. En fait, ce qui est intéressant dans cette position cartésienne des deux premières méditations, c'est que l'homme reste dans sa conscience d'une certaine manière isolé. Or, la phénoménologie décloisonne cet isolement en ouvrant des perspectives, en élargissant l'horizon et en nous menant au large du monde pour nous faire vivre une expérience. Alors ça, vraiment, il faut rappeler le livre de l'expérience d'Emmanuel Falk, hein, 600 pages magnifiques, où Emmanuel Falk parle de l'Erfahrung, le mot allemand, et dit précisément que la traversée, c'est une traversée du corps et de l'esprit. C'est pas juste un esprit qui vole au-dessus du monde, quoi. On est bien là dans une perspective de rencontre. Et justement, s'il y a rencontre, Christine et chers auditeurs, c'est qu'il y a précisément venu à soi d'un autre. Et la phénoménologie, ça, Emmanuel Lévinas nous l'a permis, nous a permis de le repenser, hein, à travers son œuvre, notamment cette œuvre des années 60, Totalité infinie. Ben, il y va précisément d'une effraction, d'une certaine manière, hein, dans notre cloisonnement ou notre solipsisme. Et cette effraction, c'est une façon d'être déporté et transporté. Et peut-être que dans ces deux sens du mot porté, déporté, transporté, il y va précisément d'une Erfahrung, c'est-à-dire quelque chose que l'on éprouve à la fois de manière passive et active. Voilà.
En effet, vous apprécierez, chers auditeurs, dans l'interview que mène Isabelle, les boutades de Monsieur Falk, lisant le discours de la méthode et attendant vraiment avec impatience les méditations métaphysiques, la sixième méditation, attendant justement que Descartes redécouvre qu'il a un corps. Oui. Et Isabelle, tu parlais très justement de cette expérience phénoménale et du tournant de ce livre d'Emmanuel Falk, donc écrit en 2021, donc c'est juste ça, voilà. Après la pandémie.
Qu'il a écrit pendant le Covid, hein, dans sa maison maison près de Tours. Et de fait, quand il revient sur l'analyse du hors-phénomène, il parle de ces quatre événements, ces cinq événements, pardon, qui peuvent complètement venir...
faire césure,
faire rupture, créer une rupture dans l'existence humaine. Alors il y a la maladie, la pandémie, la catastrophe naturelle, la séparation et
finalement
le deuil,
le deuil d'un enfant.
Le deuil d'un enfant, oui.
Sujet que nous aborderons beaucoup plus précisément dans la deuxième émission, celle du 30 mars, puisque le deuxième temps de l'interview de M. Falk s'attache véritablement précisément à interroger peut-être le paradigme vraiment de la mort d'un enfant comme celui de l'épreuve par excellence de la solitude.
Oui.
Non pas de l'isolement, mais de la solitude,
Oui.
Radicale de l'homme.
Oui.
Et aussi, Isabelle, vous faites bien donc, de rappeler ces cinq épreuves, et non pas expériences, puisqu'il s'agit véritablement d'épreuves. Cinq épreuves auxquelles... il nous a semblé important peut-être de rajouter le regard phénoménologique de Bruce Begou qui écrit, lui, quant à lui, à partir de la phénoménologie de Husserl et de la phénoménologie de Patochka, où rajoute une autre épreuve qui est celle de la guerre.
Oui, oui.
Et alors, Monsieur Falk, nous ne l'avons pas interrogé sur ces questions-là, peut-être de l'épreuve de la guerre, mais cette épreuve de la guerre qui nous fait... nous rencontrer dans notre chair, puisque c'est l'objet de ce premier sens de l'émission, ce que c'est que d'être un morceau de viande, ce que c'est que d'être de plus aujourd'hui, des attaques de viande, ce que c'est véritablement que de se découvrir une chair traumatisée par la guerre, au sens où l'expérimente tant de réfugiés, tant d'exilés, tant de gens qui vivent aujourd'hui sous les bombes. Cette expérience du corps, de la corporéité...
Oui, elle est fondamentale pour Emmanuel Falk. Et je le citerai dans Hors Phénomène quand il dit « J'assiste à mon emportement sans avoir rien, ni personne à accuser ou à qui me raccrocher. Me voilà seul, comme un bateau ivre à la dérive, d'une solitude extrême dont le noyau infrangible m'apprend aussi que j'en suis constitué. L'abîme demeure toujours là, impossible à occulter. » Alors c'est intéressant cet infraphénoménal, Christine. Infraphénoménal à travers ces cinq épreuves que nous rappelle Emmanuel Falk, une sixième que nous ajoutons ici, dont nous parlerons dans un mois, pour une émission qui lui sera consacrée, la guerre, et ces hommes, ces femmes, ces enfants qui éprouvent un traumatisme dans leur chair, parce qu'ils sont sous les bombes, parce qu'ils sont dans l'angoisse, parce qu'ils subissent des viols, parce que c'est... une absence de perspective pour eux. Alors, toutes ces guerres sur le globe, toutes ces souffrances, nous ne pouvons pas les occulter quand on parle aujourd'hui de corporéité, bien sûr, en philosophie. Et ça, Emmanuel Falk, il tient beaucoup parce que ce qu'il ne supporte pas, il le redit dans l'émission, c'est cette espèce de... intellectualisme désincarné. Et pour lui, il est important de rappeler précisément que cet être au monde, c'est un être incarné et que vivre comme un corps, vivre sa chair, son vécu de corps, de manière personnelle, singulière, c'est au fond en être et y être. au monde, véritablement. Et c'est pas juste s'en retrancher pour le conceptualiser seulement. Donc en fait, on pourrait dire que c'est un philosophe de terrain, Emmanuel Falk, hein, philosophe de terrain au sens où c'est pas quelqu'un qui coupe des autres et du monde, c'est quelqu'un qui va à leur rencontre et qui, comme il l'écrit lui-même, trouve dans cette réalité de la rencontre la nourriture de son œuvre, au fond. Et moi, j'aime beaucoup rapprocher son écriture de ce que dit Nietzsche dans le Zarathoustra. Voilà, j'écris, et tout ce que j'écris, je l'écris avec mon sang. Le sens, c'est la vie, le sens, c'est finalement cette existence de l'être au monde dont nous parlions. Et c'est aussi cette manière de s'intéresser, comme le fait Emmanuel Falk, au hors-catégorie, justement.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et ce qui est original dans cette œuvre, dans cette pensée, c'est peut-être que c'est une pensée qui n'est pas dans les clous, qui dérange et donc qui interroge beaucoup. C'est pour ça qu'il opère vraiment une philosophie sur le terrain, parce que c'est un maïeuticien, il est enseignant, Emmanuel Falk aussi. Hein. C'est pas un gars qui reste à écrire tout seul dans son coin. C'est quelqu'un qui va à la rencontre de ses étudiants, de ses collègues, et finalement qui réinvente tout le temps avec l'autre cette philosophie dont il ne se saisit pas, mais dont il apprend à se laisser dessaisir pour être constamment en exercice, en essai, dirait Montaigne, on peut dire. C'est-à-dire, au fond, une manière de restaurer avec l'autre et par l'autre une ouverture d'esprit, une ouverture de chair, une ouverture expérientielle, on peut le dire. Parce que, c'est toujours un être autrement qu'être, parler comme Lévinas, qu'il faudrait peut-être repenser quand vivre la philosophie devient une sagesse qui s'ancre dans le monde.
Oui, c'est cela. Et finalement, il s'agit à l'épreuve du réel. Et Emmanuel Falk le dit tout à fait. Il va sur le terrain, il va en hôpital psychiatrique rencontrer la parole des grands traumatisés. Il va travailler sur la maladie en soins palliatifs. Il travaille sur le deuil d'un enfant, puisque son livre s'inscrit aussi dans cette expérience personnelle de la perte de sa sœur, n'est-ce pas, de sa petite sœur.
Oui, c'est ça.
Et finalement, cette façon de toucher l'épreuve du réel qui l'invite à se poser cette question de savoir ce qu'est le sujet, s'il est un corps, s'il est un esprit, ce qu'il peut devenir dans le trauma, dans le hors-phénomène, eh bien c'est tout à fait central. Et lorsque tu rappelais, Isabelle, le caractère de pédagogue de Monsieur Falk, je voudrais dire peut-être ce qu'il donne à entendre à ma sensibilité, puisque je n'ai pas été son élève, je n'ai pas été son étudiante, j'ai eu simplement la joie de l'écouter soit à la radio, soit lors de l'interview que tu as menée. Et j'ai été sensible tout simplement au caractère printanier de sa voix, au caractère vital qui restaure,
hein,
au même titre qu'on peut aimer parfois écouter la voix de Vladimir Jankélévitch, parce que elle a une vitalité qui restaure aussi. Et qui peut restaurer le corps comme une voix au téléphone. Tu nous liras, Isabelle, à la fin de cette émission, un très beau texte de Merleau-Ponty. Hein. Une voix qui nous restaure, qui se tient à côté de nous et qui nous porte aussi.
C'est vraiment ça, c'est une voix, parce que la voix, c'est très charnel, en fait. Mm. Et de fait, si Emmanuel Falk s'inscrit dans cette philosophie de la joie, on peut le dire, s'il porte en lui cette reverdie, pour parler comme au Moyen-Âge, eh bien on peut dire que c'est parce qu'il est un philosophe du cœur, un philosophe qui s'attache non pas seulement à l'abstrait, mais également à la réalité d'une présence. Cette présence, c'est celle de la joie. Et en tant qu'enseignant en philosophie, on peut le dire, c'est quelqu'un qui arrive dans un amphi avec des étudiants à allumer le feu.
Oui, alors on va précisément s'attacher à ce feu, ou en tout cas à ces brindilles d'une voix d'enseignant, oui, parce qu'on est enseigné aussi par des voix, nous le savons, nous qui enseignons et qui pouvons à l'occasion perdre notre voix ou vivre le trauma de la perte d'une voix. Eh bien, nous savons aussi que nous incarnons ce que nous parlons, ce que nous disons dans des voix qui sont situées, qui sont au perché ou qui sont graves, hivernales comme la tienne Isabelle, et en tout cas qui portent aussi des individualités, des histoires. Une lecture donc de Bruce Bégou, extrait de notre douloureux présent, La phénoménologie des temps modernes. Lecture donc de la fin de l'article « Polémos est le père de toutes choses, guerre et histoire chez Patochka ». Prenant le contre-pied du pacifisme moral qui constitue bien souvent la position philosophique dominante, libérale et humaniste, Patochka va avancer par petites touches un bellicisme assumé. Il cite « La grande expérience du front avec sa ligne de feu consiste cependant à évoquer la nuit en tant que présence impérieuse qui ne peut être négligée. Mais qu'y a-t-il de si positif et exaltant dans l'expérience de la guerre? N'est-elle pas le déchaînement nihiliste de la technique? L'annihilation catastrophique et méprisable de la vie? Assurément. Mais elle est aussi, et de manière plus souterraine, la contestation radicale de la logique du jour. La découverte, la plus fondamentale que permet l'épreuve du front, c'est selon Patochka, le détachement soudain et abyssal qu'il provoque vis-à-vis de la défense de la vie, des forces du jour. Cette position audacieuse ne témoigne pas, comme on pourrait le croire dans une lecture trop rapide, d'un nihilisme jouissif de la destruction, ni d'un romantisme noir et provocateur. Mais elle renvoie à une expérience philosophique authentique, celle de l'ébranlement du jour, de la paix comprise comme domination sociale de la vie et de l'ordre. Cette guerre dans la guerre qu'essaie de penser Patochka est aussi une guerre pour la guerre, une guerre qui ne se déroule pas en vue de la paix, de l'ordre, de la vie réduite à la conservation biologique et au sens donné, mais continuellement contre eux. Là où le fasciste fait de la guerre le principe universel et éternel de la vie, Patochka les oppose. En fait, il objecte à la guerre de la vie et du jour le combat spirituel de la nuit. Par conséquent, cette autre guerre est l'épreuve du détachement de la vie immanente, une sorte d'ascèse, de renoncement brutal au confort vital et social, l'accès à quelque chose d'autre, de plus problématique, de plus secret. Le conflit dans l'existence n'est pas le struggle for life ou l'alles Leben ist Kampf. Au contraire, il s'écarte de toute pseudo-loi naturelle pour se poser comme rupture avec le monde de la vie. Si la guerre du jour, qui a lieu aussi en temps de paix, en tant qu'industrie culturelle et libération de potentialités orgiaques, bouleverse continuellement l'homme et sa vie, elle ne les ébranle pas profondément. L'ébranlement ici en question n'est pas l'expression de la mobilité permanente du monde technicisé, sa vitesse et sa fureur, ni même celle de la lutte sociale et de la concurrence capitaliste dans l'optique du darwinisme social. Il implique une rupture totale avec cette logique orgiaque. Alors que la guerre du jour confronte deux camps qui pensent incarner le sens et la vie, de sorte que toute guerre est une guerre civile de la nature elle-même, si l'on peut dire. La guerre de la nuit, plus secrète et souterraine, révèle une même opposition aux certitudes données et une exposition tragique au rien. Chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à lire vraiment ce travail long de lecture de Patochka par Bruce Bégout et de revenir au texte de Patochka, notamment celui sur le monde naturel ou les écrits hérétiques.
Oui, qui est vraiment un texte remarquable. Alors, Renaud Barbaras avait beaucoup travaillé sur Patochka.
Et ce serait bien un jour de travailler une émission sur Patochka.
Oui, vraiment. On vous proposera ça, chers auditeurs. On y travaille avec Christine et Paul. Merci pour cette belle lecture. Vraiment, merci beaucoup.
Alors, nous allons écouter une autre voix, chers auditeurs. C'est une très belle voix. C'est la voix d'Yves Montand qui rend hommage à un grand philosophe auquel Bruce Bégout rend aussi hommage dans l'ensemble de ces trois articles dont je vous ai parlé, dont je vous ferai une lecture tout à l'heure. C'est Jan Patochka, le grand philosophe tchèque.
Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi. Ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà ? José Abdel Argentino, Arabica Jan Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort.
Minutes. Et Isabelle nous lira à la fin de cet échange, suite à l'écoute du Miserere à neuf voix d'Allegri. Isabelle, tu nous liras, je crois, un texte extrait de Signe.
Oui, Signe de Maurice Merleau-Ponty, un texte paru aux éditions Gallimard en 1960. Christine.
Bonne écoute.
Allegre FM 80.
Vous êtes bien sur Allegre FM dans l'émission Dialogue et c'est maintenant le moment de se quitter avec Isabelle donc, qui nous lit ce texte de Merleau-Ponty, extrait de Signe, l'occasion de nous rappeler que les philosophes ont une voix, que cette voix importe dans leur corporéité. Et nous vous souhaitons, chers auditeurs, une très bonne fin de journée et j'espère le plaisir de vous retrouver pour le deuxième épisode de cette émission consacrée à Emmanuel Falk et son livre Hors phénomène. Isabelle, c'est à toi.
La parole joue toujours sur le fond de parole. Elle n'est jamais qu'un pli dans l'immense tissu du parler. Nous n'avons pas, pour la comprendre, à consulter quelque lexique extérieur qu'il nous donna en regard des mots ou des formes de pure pensée qu'il recouvrirait. Il suffit que nous nous prêtions à sa vie, à son mouvement de différenciation et d'articulation, à sa gesticulation éloquente. Il y a donc une opacité du langage. Nulle part il ne cesse pour laisser place du sens pur. Il n'est jamais limité que par du langage. Et le sens ne paraît en lui que serti dans les mots. Comme la charade, il ne se comprend que par l'interaction des signes dont chacun, pris à part, est équivoque ou banal, et dont la réunion seule fait sens. Nos analyses de la pensée font comme si, avant d'avoir trouvé ces mots, elle était déjà une sorte de texte idéal que nos phrases cherchaient à traduire. Mais l'auteur lui-même n'a aucun texte qu'il puisse confronter avec son écrit, aucun langage avant le langage. Si la parole le satisfait, c'est par un équilibre dont elle définit elle-même les conditions, par une perfection sans modèle. Beaucoup plus qu'un moyen, le langage est quelque chose comme un être, et c'est pourquoi il peut si bien nous rendre présent quelqu'un. La parole d'un ami au téléphone nous le donne lui-même, comme s'il était tout dans cette manière d'interpeller et de prendre congé, de commencer et de finir ses phrases, de cheminer à travers les choses non dites. Le sens est le mouvement total de la parole, et c'est pourquoi notre pensée traîne dans le langage. C'est pourquoi aussi elle traverse le langage comme le geste dépasse ses points de passage.
Merci beaucoup, Isabelle. À très bientôt, chers auditeurs, chères auditrices, sur Aligre FM.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour Emmanuel Falk.
Bonjour.
Nous avons le plaisir de vous recevoir sur Radio Aligre dans l'émission Dialogue avec Christine Bessy. Et nous vous recevons aujourd'hui pour parler de vos deux derniers livres, Hors phénomène et La chair de Dieu. Deux derniers livres qui marquent un tournant dans votre histoire de philosophe, dans votre pensée. Est-ce que vous pourriez nous dire comment la chair de Dieu, qui vient après Hors phénomène, Emmanuel, établit pour vous un cap, et notamment dans tout ce que vous dites par rapport à la kénose de Dieu, à ces cinq étapes de la kénose de Dieu, du mystère de Noël, jusqu'au samedi saint, hein, et c'est ce sur quoi aussi nous allons revenir. Comment, au fond, cette chair de Dieu a établi pour vous, dans votre pensée, une manière de répondre à Hors phénomène?
Alors, merci pour cette bonne question. Vous avez tout à fait raison de souligner qu'il s'agit bien d'un tournant. Hors phénomène marque un tournant qui commençait en réalité un peu avant, dans un livre qui s'appelle « Les noces de l'agneau », où déjà il s'agissait de ne pas simplement rester au vécu, au corps, à la chair, mais rentrer dans du vrai corps, voilà. Et alors, Hors phénomène, c'est un livre autour de la question du trauma. Du trauma, on peut tous vivre des traumas, d'ailleurs ce livre s'appuie sur cinq traumas. La maladie, la séparation, la mort d'un enfant, une catastrophe naturelle, une pandémie. Alors vous pouvez me dire, bah, pourquoi avoir choisi ces cinq traumas? Parce que je pense que ces expériences sont des expériences par lesquelles on peut être brisé, cassé. Voilà. Donc cette brisure est essentielle pour dire ce qu'est le hors phénomène. Et puis alors vous vous référez à l'autre livre qui s'appelle La chair de Dieu. Eh bien la chair de Dieu essaie aussi de voir ce que Dieu peut faire dans ce trauma, premièrement, ça va s'appeler Dieu hors phénomène. Et puis aussi d'essayer de voir ce qu'il en est du corps lui-même. Hein. Vous avez parlé de Noël au samedi saint, mais qu'en est-il du corps? Parce que j'avais écrit un livre sur le jeudi saint, un livre sur le vendredi saint, un livre sur le dimanche de Pâques, enfin, j'avais souligné que dans le cas de la résurrection, on ressuscite avec notre chair, notre manière de vivre. Alors tout ça, c'est très beau, et c'est vrai que c'est assez juste de dire qu'on ressuscitera, si on croit à la résurrection, nul n'y est obligé, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin, c'est assez juste de dire que finalement, on va se reconnaître les uns les autres dans notre manière de vivre par notre corps. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait de l'organique? Voilà. Alors, cette question, c'est la question que pose la chair de Dieu. Il n'y a plus de cadavres dans le tombeau du Christ. Alors, il est devenu quoi, le cadavre? Alors, voilà. Voilà une des grandes questions posées par la chair de Dieu. Donc, vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous parlez de tournant, il s'agit bien d'un tournant, et je crois qu'il s'agit de deux livres, à mes yeux, qui sont des livres radicaux, qui d'ailleurs vont s'appuyer sur deux concepts essentiels pour moi. Un, hors phénomène, pour expliquer de quoi il s'agit, et l'autre qui s'appelle d'ailleurs le corps épandu, entre le corps étendu et le corps vécu, c'est-à-dire nous avons tous un corps biologique, nous avons tous un corps animal. On ne peut pas réduire le corps à ce que la philologie appelle la chair, voilà, l'âme, hein, le vécu du corps. Donc ce corps épandu, il est entre le corps étendu de Descartes, la matière, la res extensa, et le corps vécu de Husserl. Voilà. Et finalement, on est tous des vrais corps. Voilà. Et moi, c'est cela qui m'a frappé, et qui m'a même frappé dans des expériences, parce que j'ai fait des opérations chirurgicales en bloc opératoire. J'ai fait de l'anesthésie sur du cochon pour faire de la cœlioscopie, ensuite sur de l'humain. Voilà, je suis allé en hôpital psychiatrique, en stage d'hôpital psychiatrique, pour voir ce qu'il en est véritablement de ce trauma que certains portent avec eux durant toute leur existence. Voilà, j'ai fait un stage en soins palliatifs pour voir ce qu'il en est de cette fin de vie et de ce corps qui me déborde. Voilà, donc, simplement ce que je veux vous dire pour répondre juste à votre première question, à votre interrogation, de cette question du tournant, il n'y a pas pour moi de philosophie indépendamment d'une expérience. Voilà, et donc, l'essentiel n'est pas dans les livres, l'essentiel est dans la vie, et les livres doivent traduire la vie.
Oui, et justement, je vous cite dans le chapitre 5 de votre livre « La chair de Dieu, épaisseur du corps et problème de l'âme ». C'est un merveilleux chapitre où vous parlez de Marie-Madeleine et de cette expérience qu'elle fait au jardin de la résurrection. Il n'y a plus de corps.
Il n'y a plus de corps.
Elle le cherche.
Oui.
Et cette recherche du corps, c'est bien dans ce que vous dites aussi la recherche d'une matière à toucher, d'un organique. Et cet organique-là n'y est plus, il y a un vide. Et je vous cite dans cette manière d'interpréter le passage de Jean, de l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17. Vous dites, voilà, elle dit « Rabouni », ce qui signifie « maître », la chair, contrairement au corps, corpeur, ne se touche pas. Nos limes étaient en guéret. Ben, on n'accède jamais pleinement au vécu charnel d'autrui, selon la belle leçon de la phénoménologie, dites-vous, Emmanuel, que la résurrection vient non seulement vérifier, mais aussi exemplifier. Être soi ou devenir soi revient, en quelque sorte, à traverser la voie qui va du corps que j'ai au corps que je suis. Du simple organique, dites-vous encore, qui fait le propre de la vie ici-bas, respiration, digestion, sécrétion, dans une sorte de viatique, au vécu psychique, voire spirituel, le pneumaticon, auquel seul accède le corps ressuscité. Et puis vous citez Saint Paul, l'épître aux Corinthiens, là, semé dans le corruptible, on renaîtra dans l'incorruptible. Mais ce qui est intéressant, c'est le devenir soi ici. Être soi ou devenir soi. Traverser la voie qui va du corps que j'ai au corps que je suis. Comment vous pourriez comprendre cette traversée? Comment vous l'entendez, vous, cette traversée?
Alors, donc là, vous soulignez un point tout à fait essentiel, à savoir que... l'histoire de l'homme, comme l'histoire du salut, en fait, doit pouvoir aller dans les deux sens. Un, du corps à la chair, et d'autre part, de la chair au corps. Alors le passage que vous citez souligne précisément ce passage du corps à la chair. Un point tout à fait essentiel, c'est de reconnaître l'acquis de la chair telle qu'elle est entendue dans la phénoménologie. Ce mot de chair dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est en fait la traduction de l'allemand Leib, Leben, la vie ou le vécu du corps. Et donc, nous ne sommes pas réduits simplement à notre corps biologique. Et finalement, nous nous reconnaissons les uns les autres, pas simplement par notre corps biologique, mais par notre manière d'être, notre manière de vivre. Maurice Melanpensi appelle ça le style. J'aime beaucoup ce mot de style. Et même pour expliquer le style, il parle d'une silhouette. On reconnaît quelqu'un en loin. Moi, j'ai toujours une valise. Voilà. Et on peut me voir de loin. On dit, ah, bah tiens, là, c'est Monsieur Falque qui arrive. Vous m'avez vu de loin. vous avez vu qu'une silhouette, mais dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, c'est lui, c'est bien lui. Et en réalité, c'est comme ça que nous reconnaissons les uns les autres. Quand quelqu'un est décédé, qu'on parle de lui, on dit « Ah, ça, c'était bien lui. Voilà. C'est bien moi. » Donc, le premier point, c'est effectivement, on va du corps à la chair, et je dois passer du corps que j'ai au corps que je suis, parce que je n'ai pas choisi mon corps. Donc, je dois devenir le corps que j'ai reçu. Bon. Alors, ce mouvement, qui est un mouvement humain, c'est aussi le mouvement du Christ. Parce qu'on peut très bien imaginer que le Christ a un corps, comme nous, à la naissance à Bethléem, bon, choisi ou non, alors c'est peut-être plus compliqué dans le cas de Dieu, voilà, mais il doit aussi passer du corps qu'il a au corps qu'il est. Et finalement, il y a une sorte d'incarnation du Fils, et on peut entendre ce mot d'incarnation, et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui dans le rapport entre philosophie et théologie, c'est le fait que ce mot d'incarnation n'est pas simplement un mot théologique. Voilà. L'incarnation, c'est pas simplement Dieu qui se fait chair, et le Verbe s'est fait chair. L'incarnation, ça veut aussi dire, et c'est ça qui est absolument nouveau, que je deviens moi-même ma chair. Alors, ça s'appelle l'incarnation phénoménologique vers l'Abishou. Bien. Alors, le Christ aussi doit devenir lui-même sa chair. Et finalement, le mouvement qui va du corps à la chair, c'est un mouvement par lequel on devient toujours davantage ce qu'on est, et que le corps fait transparaître ce qu'on est. Et on va dire que l'ensemble du mouvement qui va de la naissance du Christ à Bethléem, y compris jusqu'au récit d'apparition et à la résurrection, eh bien, le Christ resplendit toujours davantage la chair de Dieu. Alors, si je prends l'exemple de Marie-Madeleine, que vous citez, « Nolime tangere, ne me touche pas », parce qu'on ne peut pas toucher la chair, voilà. Parce que la chair, c'est le propre. Voilà. Alors ça, c'est le premier point, hein, quand on va du corps à la chair et qu'on ne peut pas mettre la main sur la chair. Mais, alors juste un mot sur le deuxième mouvement, parce qu'on ne va pas simplement du corps à la chair, mais on va aussi de la chair au corps, c'est que le problème que pose aussi la chair de Dieu, qui est le deuxième problème, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait du vrai corps? Enfin, ce qu'on appelle le vrai corps, ce que Tertullien appelle le vrai corps, parce que vous savez que Tertullien, quand il parle de l'incarnation du Christ, contre les gnostiques, il dit, il a eu un corps comme nous, hein, des cheveux comme nous, des poils comme nous, des bras comme nous. Alors, il a eu un vrai corps, y compris un corps animal. Voilà. Alors, aller non pas seulement du corps à la chair, c'est-à-dire du corps que j'ai au corps que je suis, mais aller aussi de la chair au corps, c'est reconnaître qu'il y a une résistance de mon corps, que je vis aussi par mon corps, que finalement, parfois, je ne suis pas mon corps. Et que dans le cas de la maladie, par exemple, j'ai souvent écrit ça, je peux toujours dire que je suis mon corps, mais un jour mon corps mourra. Bah oui, mon corps mourra, c'est-à-dire que le corps sera plus fort que moi. Dans la maladie, le corps est plus fort que moi. Dans le trouble psychique, la psyché est plus forte que moi. Voilà. Donc il faut aussi assumer ces moments-là. Voilà. Et donc ce mouvement de ce livre qui s'appelle La chair de Dieu, c'est celui qui va à la fois du corps à la chair, c'est du corps que j'ai la chair, et qui revient de la chair au corps pour assumer l'organique et prendre en compte l'organique. Et ça, c'est un point très important pour moi.
Oui.
Le fait que je ne me satisfais pas, finalement, de Husserl,
oui.
Ni de Merleau-Ponty, mais que je reviens vers Nietzsche, par exemple, dans mon livre s'appelle Les Noces de l'Agneau.
Oui, enfin, beaucoup.
Et enfin, quand Francis Bacon.
Et Francis Bacon, Gilles Deleuze. Et d'ailleurs, dans Les Noces de l'Agneau, vous parlez du style, mais ce style qu'on retrouve sous la plume de Merleau-Ponty, dans Le Visible et l'Invisible, notamment, il est déjà chez Nietzsche, hein. C'est le style de Nietzsche au sens où il entend par là l'écriture, mais on n'écrit jamais qu'avec son sang. Il le dit dans Ainsi par Zarathoustra.
Voilà, ça c'est tout à fait du Nietzsche.
Et très c'est du Nietzsche parce que si la pensée est un estomac et qu'une pensée qui pense trie et ne prend pas tout, justement, l'écriture qui marque une personne aussi, c'est une la graphologie. Vous parliez du style la manière de reconnaître une écriture. Oui. Mais l'écriture, ici, davantage comme. Tout ce qu'on dit, tout ce qui sort de ses tripes, on l'exprime comme ça aussi en français, c'est intéressant parce qu'il y a comme de l'organique sur la page et le corps d'un texte devient le corps de l'auteur. Et ce qui est beau dans ce que vous écrivez, c'est qu'il y a comme une continuité, comme ça, un souffle qui continue et vous, c'est votre œuvre et votre œuvre, c'est vous. Moi, j'aime beaucoup Et ça rejoint un peu ce mode artistique d'expression dont vous parlez dans La chair de Dieu, en citant Thomas d'Aquin, ce mode artistique d'expression pour signifier que, finalement, de la théologie à la philosophie et de la philosophie à la théologie, il y a comme une respiration, un flux et un reflux, un va-et-vient, ce mouvement de systole et de diastole qui représente le rythme du cœur, et ce rythme du cœur qui rejoint le cœur de Dieu. Parce que Dieu, vrai homme, vrai Dieu, enfin notre Dieu Jésus-Christ, c'est quand même un homme en chair et en os, vous l'avez rappelé, avec son organique et son cœur qui pleure dans les évangiles, il pleure la mort de Lazare, il est remué quand il regarde Jérusalem et qu'il crie « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants ?» Donc au fond, cette identité du corps qui ne peut chez vous se concevoir que dans ce mouvement-là, de passivité, de maîtrise, de maîtrise et de démaîtrise d'ailleurs, parce que c'est le mot que vous employez dans Transversalité, oui, sur le samedi saint, ben on peut dire que c'est d'une certaine manière pour vous peut-être cette manière d'intégrer l'homme tout court dont vous parlez dans votre œuvre, l'homme concret, l'homme intégral en quelque sorte, oui, qui entend par là une force de présence, je dirais, chez vous. Donc votre présence, votre corps, à vous, c'est le corps de l'œuvre, c'est le corpus, mais le corpus, c'est jamais sans Corpus Christi. Et quand vous parlez du corps de Dieu, de l'organique, et que vous développez dans ce très beau livre sur voilà, les noces de l'agneau, force de l'Eucharistie et cette présence aussi de Dieu sous les espèces, le pain et le vin, c'est une manière de réunir notre humanité et sa divinité aussi. Parce que quand le prêtre voilà, élève l'hostie, voilà, le pain, fruit du travail des hommes, ce travail des hommes qui passe dans la chair de Dieu, qui devient le corps du Christ et qui nous nourrit. En fait, on devient ce à quoi nous communions.
Alors, tout à fait. Bon, d'abord, pour vous dire que vous résumez parfaitement mon travail, que vous me connaissez bien, donc c'est un point important, et l'ensemble de ce travail qui se construit petit à petit, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'on écrit avec son corps, qu'on écrit avec son sang. En quoi je suis, alors, sur ce point vraiment nietzschéen. Faire une œuvre, c'est toujours un peu présomptueux de parler de faire une œuvre, mais bon, l'œuvre elle est après soi et on finit par la voir, surtout quand on vieillit. Et bien finalement, c'est jamais prévu à l'avance. Vous savez, ça arrive comme ça. Un jour je fais un livre sur le samedi saint, un jour je fais un livre sur le vendredi saint. Après tout ça prend forme. Vous voyez, j'aurais jamais pensé écrire un livre sur le trauma, jamais. Et puis ce livre hors phénomène que j'ai écrit pendant la pandémie, ben, il est sorti de moi comme de mes tripes, et c'est cela qui m'a permis de parler du samedi saint ensuite, Dieu hors phénomène. Bon, donc ça c'est un premier point que je veux souligner. Le deuxième point que j'aimerais souligner par rapport à votre juste intervention, juste remarque, c'est cette idée, comme vous avez dit, en chair et en os. Oui, en chair et en os, c'est une expression essentielle qui ouvre le livre La chair, oui, de Dieu. En fait, c'est une expression qu'on trouve dans la phénoménologie, on la trouve sous la plume de Husserl, être en chair en os, leibhaftique, on la trouve même sous la plume de Karl Marx. Hein. Donc ce mot en chair en os, c'est pas seulement une expression en français, c'est aussi une expression en allemand, enfin, on peut le traduire en allemand par en chair en os, mais c'est aussi une expression qu'on trouve dans la Bible, enfin dans l'Évangile, vous savez, cette apparition du Christ au 11, où il leur dit « N'ayez pas peur, je ne suis pas un esprit, pneuma, on traduit souvent fantôme, c'est bien moi, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Alors c'est vrai que ce texte, il dérange. Hein, il dérange parce que, on se dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Est-ce qu'on va ressusciter avec notre chair, avec nos os? Alors après, il y a plusieurs manières d'interpréter ça. Soit on va dire, en chair, en os, c'est bien moi. Donc on se reconnaît les uns les autres. On peut dire qu'on se reconnaît en chair, en os, parce que ah, ben, c'est bien lui, c'est bien elle. Mais là, c'est la chair. C'est bien moi. Je l'ai rencontré en chair en os, j'ai vraiment rencontré lui. Voilà. Et puis une deuxième expression, on dit, ben, en chair en os, c'est avec des chairs, avec des os. Alors, là, c'est beaucoup plus compliqué dans le cas de la résurrection. Alors je tiens qu'il faut essayer de tenir les deux. C'est-à-dire, évidemment que le Christ ne sort pas du tombeau avec les mêmes os et les mêmes chairs, même s'il y a une continuité, comme le dit d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique, c'est une continuité transformée. Donc, mais il faut tenir cette expression en chair et en os, et j'aime beaucoup ce que dit Karl Marx à propos de en chair et en os. C'est une des premières fois que je cite Karl Marx d'ailleurs dans un livre, et un livre sur la chair de Dieu, vous voyez comme quoi. Mais il ne s'agit pas de marxisme du tout, il s'agit de Karl Marx, qui explique qu'il y a une praxis du corps, et qu'on est en lien avec le monde, en lien avec les autres. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième point qui me paraît très important. Voilà. Le troisième point que je voudrais souligner, suite à votre intervention, vous faites référence à cet autre livre qui s'appelle « Les noces de l'agneau », autour de l'Eucharistie. Alors évidemment, c'est un livre fondamental pour moi. Pourquoi ? Eh bien parce que « Les noces de l'agneau », c'est cette découverte en nous d'une part d'animalité. Voilà. À la fois, vous savez, l'homme tout court, vous avez parlé de l'homme tout court. Alors, l'homme tout court, c'est quoi ? C'est que même si je suis croyant, en quoi d'ailleurs je le suis, chrétien, catholique, je ne l'ai jamais caché, mais même si je suis croyant, je dois partir de l'homme tout court, c'est-à-dire de l'humain. Et qu'est-ce que je découvre dans l'humain ? Je découvre premièrement cette angoisse de la mort, la finitude, qui fait l'encommun de tous, de tous les humains, qui donnera ce livre « Métamorphose de la finitude ». Et puis je découvre aussi que nous sommes corps et que nous avons en nous de l'animalité. Alors cette question de l'animalité est essentielle, et vous le savez bien, parce que vous avez écrit dessus, sur mon travail à propos de ça. Cette question de l'animalité est essentielle, pourquoi ? Parce que finalement on l'a oublié dans la théologie. Alors peut-être qu'on y reviendrait aujourd'hui par le pape François d'Assise, voilà, il y a quelques auteurs qui ont parlé de l'animal, la fraternité avec les animaux. Mais en fait, l'animalité, c'est pas du tout un amour des animaux. Il ne faut pas confondre l'animalité et l'animal, ou les animaux. L'animalité, pour moi, c'est un concept méthodologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un l'animalité ? C'est le corps sans conscience. Voilà. Et qu'est-ce que l'angélisme ? À l'inverse, c'est la conscience sans corps. Alors, Descartes, le cogito de Descartes, ben, c'est de l'angélisme. C'est la conscience sans corps, voilà. On se promène sans corps. Alors, on est très content quand on enseigne ça, y compris dans une classe de terminale. Voilà, je l'ai fait pendant longtemps, et je continue à l'enseigner à l'université, que tout d'un coup, on suspend le monde par le doute, et qu'on est là, en train d'être pensant. Je me souviens, la première fois que j'ai vraiment découvert la méditation métaphysique de Descartes, j'étais voltigeant sur mon bureau, en attendant la sixième méditation pour enfin retrouver du corps et du monde. Bien. Alors aujourd'hui, moi, je ne suis plus du tout cartésien sur ce plan. D'ailleurs, je ne suis plus cartésien à l'encontre, d'une certaine manière, d'un certain nombre de mes pères dans la phénoménologie, parce que j'ai fait ce diagnostic il y a longtemps dans « Métamorphose de la finitude », sur lequel, finalement, tous les phénologues de ce qu'on appelle le tournant théologique, hein, dont Dominique Génicot parle, sont tous des cartésiens. C'est-à-dire, j'ai premièrement en moi l'idée de l'infini plutôt que de moi-même. Alors, prenez le visage chez Emmanuel Lévinas, qui est bien l'infini. Vous pouvez prendre le don chez Jean-Luc Marion, vous pouvez prendre l'auto-affection chez Michel Henry, vous pouvez prendre la prière ou la parole chez Jean-Luc Chrétien, la liturgie chez Jean-Lacoste. Finalement, il y a toujours cette idée d'infini. Voilà. Alors moi, non, pas du tout. Je démarre non pas par l'infini, par la finitude. Et la finitude, c'est ce que nous avons en commun, l'angoisse de la mort. Donc ça, c'est le premier en commun. Et puis on a ce deuxième en commun, donc, l'animalité. L'animalité, c'est le contraire de l'angélisme. Et l'animalité, ben, c'est tout ce réseau de passions et de pulsions qui sont en moi, que je n'arrive pas à dire, hein, qui est là, et qui, d'une certaine manière, me constitue. Absolument. Hein, d'où tout un travail sur la psychanalyse aussi, dans la suite de mon œuvre ou de mes livres, dans un livre qui s'appelle « Ça n'a rien à voir ». Un livre sur Freud, on ne peut pas voir de ça. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que d'être un corps sans conscience ? Alors là, celui qui nous aide, c'est Spinoza, parce que Spinoza, il dit, je cite souvent, il dit « Nous ne savons pas ce que peut le corps ». Il a bien raison. Et les sportifs le savent. Les sportifs savent qu'il vaut mieux faire taire sa conscience pour faire un bon résultat sportif. Hein, tant que vous dominez par votre conscience, d'une certaine manière, eh bien, vous n'êtes pas pleinement votre corps. Alors, Spinoza, il prend l'exemple des somnambules. Alors, j'aime bien cet exemple, parce que quand vous êtes somnambule, vous êtes capable de faire des choses, on va pas dire marcher sur le toit d'un immeuble. En tout cas, quand vous êtes somnambule, d'une certaine manière, vous vivez que par votre corps. Et c'est que lorsque votre conscience se réveille que vous tombez. Vous savez, c'est comme dans les dessins animés, le petit bonhomme qui court sur la falaise, il continue à courir, et il continue à courir. Et tout d'un coup, il voit qu'il est au-dessus de lui, il tombe. C'est la même chose de Pierre qui marche sur les eaux. Pierre, il marche sur les eaux, il est dans un corps à corps avec le Christ. D'ailleurs, je n'ai jamais écrit, mais c'est une bonne idée. Et puis tout se passe bien. Tout d'un coup, il se rend compte qu'il marche sur les eaux, il coule. Ce qui fait couler Pierre, c'est la conscience. Ce qu'il faisait tenir, c'était le corps. Donc c'est bien le corps à corps, voilà. Alors, vous voyez, cette animalité, elle est importante. Voilà. Il faut la prendre en compte. Et si on ne l'a pas prise en compte dans la théologie, c'est parce qu'on a vu, on a confondu l'animalité et la bestialité. En fait, c'est, voilà, la possibilité d'être bête, voilà, ou d'être une bête. Bah, finalement, vous savez, les bêtes, elles n'existent que pour les hommes. Hein. Quand vous dites ça, bête, donc ça n'existe que pour les hommes. Qu'est-ce que c'est que la bestialité? C'est le rejet de l'animalité en nous. Ah, je veux pas de l'animalité. Voilà. Alors, la bête, c'est la dimension du péché. Vous voyez, la bête à 10 cornes de l'Apocalypse, hein, à la fin de la Bible. Ou encore, la bête tapis qui te convoite dans la Genèse avec Caïn et Abel. Vous voyez, cette bête, la bête, ça n'existe que pour les hommes. C'est la possibilité pour l'homme, et uniquement pour l'homme, de tomber en deçà de son animalité. Bon, pornographie, ivrognerie, autant de phénomènes que vous ne trouvez pas chez les animaux. L'homme est perfectible, il peut devenir meilleur, il peut devenir pire. Voilà. Et donc, c'est bien ça le problème. Donc, si vous voulez, cette prise en compte de l'animal en nous, elle est essentielle. Et alors, dans l'Eucharistie, parce que vous faites référence à l'Eucharistie, et dans l'Épiclèse, ben, qu'est-ce qui se passe finalement? Ben, finalement, pour moi, dans l'Eucharistie, dans le « ceci est mon corps », je reçois le corps de Christ qui me dit « Écoute, je te connais très bien. Avec toutes tes passions et toutes tes pulsions, c'est pas besoin de me raconter tes histoires avec ta conscience. Inutile de tout ça. Je sais très bien. Et je sais mieux que toi. Le Christ, il sait mieux qu'un psychanalyste ce qui se passe en moi. Voilà. Mais la question, c'est qu'il ne veut pas en rester là. Il veut le transformer. Voilà. Et il dit « Eh bien, cette animalité, je vais l'humaniser. Je vais faire en sorte que toutes tes passions, toutes tes pulsions, toutes tes douleurs corporelles, elles deviennent humaines dans la filiation. » Parce que le but de l'Eucharistie, c'est pas qu'on devienne des hommes. Le but du christianisme, c'est pas qu'on soit des hommes, c'est pas de l'humanisme. Le but du christianisme, c'est la filiation, qu'on devienne des fils de Dieu. Mais des fils de Dieu qui sont pleinement fils, pleinement hommes, pleinement corps, pleinement chair, pleinement esprit, voilà. Et donc, finalement, moi, j'aime beaucoup cette idée que l'Eucharistie, eh bien, c'est ce moment où, d'une certaine manière, eh bien, tout ce que je suis moi-même, toute mon animalité, voire mon hors-phénomène, hein, tous mes traumas, ben, ils sont là, et je les offre à Dieu, et en recevant le corps du Christ, c'est un corps à corps qui me transforme, qui transforme mon animalité en humanité dans la filiation. En ce sens, on est très très loin, évidemment, d'une Eucharistie qui n'est qu'une simple divinisation. Mais bon, moi je crois que, comme dit Thomas d'Aquin, nous sommes des hommes qui ont une différence entre le créé et l'incréé, et que l'amour, c'est l'acte de différencier. Voilà. Comment l'éros entre un homme et une femme, c'est devenir davantage homme et davantage femme. Voilà. Ce que dit très très bien Hegel, parce que Hegel dit que l'amour, c'est pas le besoin, c'est le désir du désir de l'autre. Et ce désir du désir de l'autre, dit Hegel, rend l'amour anthropogène, humain. On devient humain, non pas en désirant l'autre, mais en désirant le désir de l'autre. Voilà. Non pas en consommant l'autre, mais en faisant que l'autre soit un autre. Donc l'union d'un homme et une femme fait que la femme devient toujours plus femme et l'homme toujours plus homme. On est très très loin de la fusion. Alors moi je dis à propos de l'Eucharistie que l'Eucharistie est théogène. Théogène, c'est-à-dire que finalement, paradoxalement, Dieu devient toujours plus Dieu et l'homme devient plus homme. C'est-à-dire qu'en communion au corps du Christ, je ne deviens pas seulement le corps du Christ, mais je deviens pleinement homme dans ma différence, ce à quoi il m'appelle.
Merci Emmanuel.